Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bertoli.
Et bonjour Andréane et bonjour à tous.
Dans ce journal, Jeanne, la préférence européenne au cœur d'un sommet informel des dirigeants européens.
Et ça se passe dans un château près de Liège en Belgique. Objectif peser plus face aux États-Unis et à la Chine. Mais on verra que le projet de préférence européenne défendu ardemment par Emmanuel Macron n'est pas totalement du goût du chancelier allemand Friedrich Merz. Dans ce journal aussi, Benjamin Netanyahu a rencontré Donald Trump à Washington alors que les États-Unis ont débuté des discussions avec l'Iran. La rencontre n'a pas changé grand-chose sur la position américaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Appel, c'était mardi, lors duquel a été évoqué le sort des Sud-Africains enrôlés dans les forces russes et envoyés sur le front ukrainien. On vous raconte tout ça dans ce journal. Et puis l'exploit hier soir du duo français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry au JO de Milan-Cortina, le couple formé il y a un peu plus d'un an. On remporte l'or en danse sur glace.
Les promesses de souveraineté économique, place aux mesures concrètes.
Les 27 dirigeants de l'Union européenne se réunissent donc à partir de ce matin à quelques kilomètres au nord de Liège, sommet informel pour parler donc compétitivité face aux États-Unis et à la politique de droits de douane punitif menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche, face aussi aux ambitions chinoises. La part de l'Union européenne dans le PIB mondial est tombée sous les 15%. L'objectif de cette rencontre, c'est donc de trouver des leviers pour dynamiser l'activité économique européenne. L'une des pistes, c'est la préférence européenne, ardemment défendue par Emmanuel Macron et soutenue par la présidente de la Commission européenne, Laura Salabert.
Chaque euro public dépensé doit aller à la production et à l'emploi en Europe. C'est l'idée portée par le projet de préférence européenne, un projet soutenu par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui y voit aussi une manière de stimuler l'innovation en Europe.
Je pense que dans les secteurs stratégiques, la préférence européenne est un instrument nécessaire qui contribuera à renforcer la base de production propre à l'Europe. Elle peut aider à créer des marchés de pointe dans ces secteurs et soutenir l'augmentation des capacités de production européenne. Mais je tiens à être claire, il s'agit d'un exercice délicat. Certains patrons européens souhaitent même que la préférence européenne concerne tous les secteurs, car elle permettrait de faire face à la concurrence étrangère, parfois déloyale. David Soulard est le directeur général de Gautier, une entreprise qui produit des meubles en France.
On pouvait même, au niveau de la France, avoir des appels d'offres qui aient tendance à aller vers de l'import. Et donc, en regardant que le prix, finalement, je prends juste l'exemple des Jeux Olympiques. Par rapport à l'aspect du meuble, il n'y a aucun des produits de la meute française qui a été choisi. Je pense que la préférence européenne sera quelque chose qui pourra être bien apprécié dans ce type d'événement.
Reste à convaincre notamment l'Allemagne, qui souhaiterait que la préférence européenne soit l'exception et non la règle.
Mais l'Allemagne opposée aussi à l'idée des eurobonds défendus par Emmanuel Macron lors d'un discours devant des industriels réunis à Anvers. Mercredi, le président français avait une nouvelle fois défendu l'idée de ces emprunts communs européens pour financer des investissements massifs.
Le couple franco-allemand, pas vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Friedrich Merz, lui, se tourne plutôt vers l'Italie de Giorgia Meloni. On y revient dans la Fabrique du Monde tout à l'heure à 6h55, heure de Paris. À la une aussi, Jeanne, Benjamin Netanyahu à Washington.
Et le Premier ministre israélien reçu hier à la Maison Blanche sur fond de négociations avec l'Iran. Israël cherche toujours à convaincre les États-Unis d'adopter une ligne dure vis-à-vis du régime iranien. Mais d'après Donald Trump, qui s'est exprimé à l'issue de cet entretien, pas d'inflexion majeure. Vincent Souriau, le président américain plaide pour la poursuite des discussions avec Téhéran.
Rien de définitif, indique Donald Trump. J'ai insisté, écrit le président américain, pour que les négociations continuent afin de voir si oui ou non un accord peut être atteint. C'est la solution qui aurait ma préférence, poursuit-il, et je l'ai fait savoir à Benjamin Netanyahu. Donald Trump termine par une menace. La dernière fois, dit-il, que les Iraniens ont décidé de ne rien signer, ils ont été frappés et ça ne s'est pas bien terminé pour eux. Espérons que ce coup-ci, ils seront plus raisonnables et responsables. Pour donner corps à cet avertissement, avertissement. Le Wall Street Journal indique que le Pentagone a mis en alerte un deuxième porte-avions américain susceptible d'être déployé au Proche-Orient. Donald Trump n'a pas encore donné l'ordre formel de ce second déploiement, mais il a répété la semaine dernière que les États-Unis avaient tout leur temps et qu'ils se devaient de se mettre en position. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et Israël qui va par ailleurs intégrer le Conseil de la paix mis sur pied par Donald Trump. Benjamin Netanyahou en a fait l'annonce hier. Les États-Unis se défendent de vouloir en faire un organe concurrent de l'ONU. La réunion inaugurale de ce conseil doit avoir lieu la semaine prochaine.
Le ministre américain de l'énergie en visite au Venezuela.
Et le pays est de facto placé sous la tutelle, la quasi-tutelle de Washington depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro par l'armée américaine. Le ministre de l'énergie, Chris Wright, a promis une augmentation spectaculaire de la production de pétrole au Venezuela, jugeant l'embargo américain pour l'essentiel terminé et les relations entre les deux pays à un tournant. Viva Venezuela et viva les États-Unis, a-t-il lancé aux côtés de Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du pays. Et puis pour l'instant, on ne sait pas si Delcy Rodriguez fera partie du voyage. Donald Trump accueillera le mois prochain, le 7 mars, à Miami, un sommet avec plusieurs dirigeants des pays latino-américains. C'est la Maison-Blanche qui l'annonce. Les États-Unis, où la publication des dossiers Epstein par le ministère de la Justice n'en finit pas de faire tomber des têtes partout dans le monde. Parmi les noms cités dans ces millions de documents, deux Français accusés d'être les anciens recruteurs de jeunes femmes du criminel sexuel américain, Daniel Siad et Jean-Luc Brunel, deux hommes du milieu du mannequinat qui auraient proposé des profils d'adolescentes à Jeffrey Epstein contre rémunération. Précision avec Amélie Beaucourt.
Daniel Siad est un Français originaire de Kabylie, citoyen suédois aujourd'hui. Des centaines d'échanges par mail entre Jeffrey Epstein et lui mettent en évidence des discussions autour de femmes et d'adolescentes qu'il aurait repérées avec mention de l'âge et photos à l'appui. Les documents dévoilés par la justice américaine montrent des versements d'argent réguliers de l'Américain à destination de celui qui est présenté comme rabatteur pour ses crimes sexuels. Il fait également l'objet d'une plainte pour viol déposée ce mardi par une ancienne mannequin suédoise qui dit l'avoir reconnue sur des photos publiées par le ministère américain de la Justice. Un autre Français, Jean-Luc Brunel, aurait joué un rôle similaire. Ancien dirigeant d'agences de mannequins à Paris, Miami et New York, il a lui-même abusé de jeunes femmes repérées pour son agence. D'après Virginia Giuffre, principale plaignante de l'affaire qui a enquêté sur ce dossier pédocriminel XXL, il aurait offert près d'un millier de femmes à l'homme d'affaires américain. C'est grâce à cette victime et militante qui a mis fin à un séjour l'an dernier que Jean-Luc Brunel a été incarcéré pour viol et traite d'êtres humains sur mineurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2022. Suicide qui a mis fin aux poursuites engagées à l'époque.
Amélie Beaucourt.
Le Bangladesh de retour aux urnes un an et demi après sa révolution.
Et un an et demi après le départ de Sheikh Hasina, aujourd'hui en exil en Inde. Les bureaux de vote ont ouvert pour des élections législatives et un référendum. Le parti de Sheikh Hasina a été déclaré hors la loi pour ce scrutin. Parmi les partis qui s'opposent aujourd'hui dans les urnes, le Parti national du Bangladesh, le BNP et les islamistes du Jamaat et Islami font figure de favoris. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Dhaka dans le journal de 7h.
Direction l'Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine.
Oui, c'était mardi et parmi les sujets abordés entre les deux chefs d'État, celui du sort des Sud-Africains enrôlés dans les forces russe et envoyé sur le front ukrainien. Alors que certains pays africains critiquent ouvertement le pouvoir russe, l'Afrique du Sud, de son côté, reste plus prudente, Sofiane Amazian.
L'entretien entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine portait notamment sur le développement futur de la coopération entre la Russie et l'Afrique du Sud. Dans un communiqué, le chef d'État sud-africain réaffirme, je cite, le soutien indéfectible de l'Afrique du Sud aux efforts diplomatiques et pacifiques visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien. Les deux hommes se sont mis d'accord sur le rapatriement dès que possible des ressortissants sud-africains présents en Russie et enrôlés pour participer à l'effort de guerre. De son côté, le Kremlin, dans un communiqué très court, n'a pas mentionné ce sujet abordé durant l'échange téléphonique. En novembre dernier, Pretoria avait indiqué avoir reçu des appels à l'aide de 17 de ses ressortissants forcés à rejoindre l'armée alors qu'ils se rendaient en Russie pour travailler. Des équipes des deux pays poursuivront leurs échanges en vue de la finalisation du processus, poursuit le communiqué. L'Afrique du Sud fait preuve de prudence avec un pays dont les relations sont amenées à se renforcer. En revanche, le Kenya, dont certains ressortissants ont été tués sur le front, enverra dans les prochaines semaines son chef de la diplomatie à Moscou pour clarifier clarifier la situation.
Et si vous voulez en savoir plus sur l'enrôlement des forces dans les forces russes des ressortissants africains, rendez-vous dans le journal de 8h. On évoquera le business du désespoir, cette enquête du collectif d'investigation All Eyes on Wagner sur ses réseaux de recrutement russes en Afrique. En plus bref, à présent, la police canadienne ne connaît toujours pas le mobile de la tireuse qui a fait 8 morts hier dans une petite ville au pied des Rocheuses dans l'ouest du pays. La femme de 18 ans, présentée par la police comme une femme transgenre, a ouvert le feu dans un collège-lycée, tuant 5 enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans. Elle a par ailleurs abattu sa mère et son frère dans leur résidence. L'actualité en France est une bataille juridique qui dure depuis 10 ans maintenant. L'affaire devenue symbole des violences policières. La Cour de cassation a confirmé hier le non-lieu en faveur des 3 gendarmes accusés par la famille d'Adama Traoré de lui avoir réalisé un plaquage ventral entraînant sa mort. Les détails dans le journal de 7h.
Sébastien Lecornu en déplacement dans le Jura.
Et le Premier ministre français doit présenter aujourd'hui la stratégie française énergétique jusqu'en 2035 qu'il va faire passer par décret. Sébastien Lecornu qui s'évite ainsi un débat parlementaire périlleux sur ce sujet hautement inflammable. Raphaël Delvolvi.
Plus question d'attendre, c'est au nom de l'urgence que Sébastien Lecornu contourne l'Assemblée nationale. Le texte a 2 ans de retard et s'avère bien trop clivant pour la configuration actuelle. Seul point d'accord, la baisse de la dépendance aux énergies fossiles importées, notamment des États-Unis. L'équilibre du mix énergétique, en revanche, ne fait pas consensus. Alors comme sur le budget, le gouvernement donne un peu à chacun, des LR aux écologistes, le renforcement du parc nucléaire comme demandé par la droite et des investissements dans le renouvelable comme exigé par la gauche. Cette PPE est en tout cas vigoureusement contestée par l'extrême droite depuis de longues semaines. Marine Le Pen parle dernièrement d'une lourde faute et prédit des coûts exorbitants pour les Français, ce qui a forcé Sébastien Lecornu à démentir point par point l'argumentaire du RN sur les réseaux sociaux. Le Rassemblement National critique, mais ne menace cependant plus de censure, les autres forces politiques non plus. La fatigue liée au budget et l'approche des élections y sont pour beaucoup, ce qui explique d'ailleurs en grande partie le moment choisi par le Premier ministre pour dégainer son décret.
Raphaël Delvolvé du service politique d'RFI, les sports et l'exploit hier du duo Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry au JO de Milan-Cortina. Le duo français formé il y a à peine un an remporte l'or en danse sur glace. La Française Perrine Laffont a décroché aussi hier, elle, la médaille de bronze en ski de bosse, la 4e de la délégation française au tableau des médailles. La Norvège devance toujours les États-Unis devant l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et donc la France qui se hisse en 6e position. Et puis du football et la section féminine du Paris FC qui affrontait le Real Madrid hier soir en barrage de la Ligue des Champions. Un match perdu 3-2 par les Parisiennes, mais riche en enseignements pour les dernières représentantes de la capitale dans la compétition. Avec un seul but d'écart, le PFC peut encore espérer se qualifier lors de la phase retour à Madrid. Pauline Guillou.
Face au Real Madrid en Coupe d'Europe, il fallait un peu d'audace aux Parisiennes qui ont regardé le Real droit dans les yeux pendant toute une mi-temps. Mais en baissant la garde trop vite, le PFC s'est condamné et laisse Madrid repartir avec la victoire. Avec un seul but d'écart avant le match retour, l'espoir est tout de même permis pour l'attaquante et capitaine du PFC, Clara Matteo.
On a vu ce soir qu'on rivalise avec le Real de Madrid, donc je pense qu'on peut être fier de ça. On va là-bas avec de l'ambition et voilà, on essaiera de marquer un premier but et puis après on verra.
Défaite encourageante pour le PFC qui estime déjà avoir réussi sa saison en se qualifiant pour les barrages, pour la première fois dans son histoire récente. Surtout en apprentissage face à ce qui se fait de mieux en football féminin, selon l'entraîneur du PFC, Sandrine Soubéran.
Ce qui est sûr, c'est que de jouer ces matchs-là pour mon équipe et pour mon groupe, c'est hyper enrichissant. Et on est dans un processus où l'équipe, elle se construit. Peut-être que dans 2-3 ans, on aura des joueuses qui auront plus d'expérience, plus de vécu et qui seront peut-être devenues internationales. Et
pour le match retour à Madrid, les Parisiennes ont les armes pour rêver puisqu'elles ont déjà réussi à tenir le Real en échec cette saison lors de la phase de lit. Pour les supporters aussi, le rêve est permis.
Faut y croire toujours jusqu'au bout. C'est ça, les Jeux Olympiques en ce moment, c'est ça. Donc les Parisiennes, c'est ça. Il faut y croire.
En cas de victoire, le PFC affronterait Barcelone en quart de finale. Déjà 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions.
Et le Real Madrid recevra le Paris Football Club mercredi. Merci, c'était Pauline Guillou.
Et le journal des sports, ce sera à suivre dans une demi-heure sur RFI avec Antoine Grenier. On va parler notamment de la première apparition médiatique du nouveau sélectionneur de la Tunisie. Merci à vous, Jeanne Bartoli. RFI à Paris et Pointe-Noire. Il est 6h14, une heure de plus à Kiev et Kolwezi. Ravi de vous retrouver pour notre tour du monde quotidien de l'actualité jusqu'à 9h. Aujourd'hui, on sera évidemment à Madagascar, dans les ruines de Tamatav, capitale économique de la grande île, littéralement décimée par le cyclone Guezani, alors que le bilan humain s'alourdit. On vous fait entendre des témoignages ce matin.
C'était effrayant. Sincèrement, c'était effrayant. Je pense pas qu'il y ait une seule maison qui soit épargnée. Il y en a qui sont vraiment... Le toit est complètement parti. On se retrouve donc avec des rues de circulation.
Comme ça. La vie, c'est épatant. Tout doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés. Qui ne savent pas aller.
Avant que ça plante, de 9 à 9, 8, les aléas de la vie sur du papier, ce qui hante, les fuites, mes cuites, râler après les faux cuits, les trucs du fond qui font chier.
Et ça représente,
à coup sûr, ceux que j'aime, peut-être d'autres, reste à voir les sommes de genre qu'on ramène et l'espoir qu'on sait maintenant. Comme c'est que la parole est mienne et comme la rumeur, mon punk s'est coué, en faire bon usage, la chance d'en connaître des sincères. Cimera 12, mon frère, dans la vie, dans les pages, mais on sait que tout ce qui
on trouve un frein, viens on le fait vite fait, viens on ferme des gueules, viens on le fait exprès. Vas-y, viens on trouve un frein, viens on le fait vite fait, faut que ça passe en radio, faut surtout pas que ça effraie.
Si l'on pense d'attendre au fond, si je ronde, personne pourrait le comprendre. Clair que le jeu en vaut la chandelle, ma chance, ma jeunesse. Prétendre que sans elle, ce serait si simple, faut voir. Je confesse mon ignorance sur ma naïveté. Le hasard, la cause de tout ça en vérité. Les choix se font sans vraiment qu'on le sache. Confond maturité, ingénuité, c'est vrai que c'est pas nouveau, audacieux. Sur tous les fronts, faut pas que ma motivation s'estompe. Tu trompes l'œil, mensonge, flagrant. Tout ça, je commence à connaître. Et parents, peut-être, je tire un trait sur rien du tout. Être maître soi-même, voilà mon fil conducteur et ça même. Dans la bêtise, toujours plus de rigueur. La maîtrise importe plus que le reste. La peur, ne rien voir au bout, n'a jamais simplifié la tâche. Et surtout, je ne cache pas mes envies. Attentif sur tout le long, une pensée pour ceux qui m'en disent. Sentiment profond, qu'est-ce qu'on dit. J'amplifie mes actes encore une fois, c'est pas dit. Quand c'est pas mieux. puisse dans nos choix. Je claque 10 avant qu'on pointe du doigt réflexe existentiel, espoir.
Ce qu'il est-tu, Jeep? J'ai pas les réponses toutes faites, mais les questions sans réponse. Ouais. Celles qu'on s'empresse de nous répondre, le couteau sous la gorge. Ou alors, franchement, à tes codes et qu'on s'y interroge de trop. Si j'écris, c'est pour ça, tant qu'à faire. Pour regarder s'ils ont pas mis de saloperie dans mon verre. Ah. On est jamais trop méfiant, ni trop naïf non plus. Ça, tu fais bien de me le redire. Comme la plupart de mes pintos que j'ai vu partir d'ici. Pour commencer à aller voir ce qui serait bon de faire au pays. Au moins, une ou deux fois dans l'année. Ouais. Préparer le terrain et la zone que j'aurai acheté si j'en étais déjà là. Je multiplierai les euros avant d'épargner tous mes CFA. T'inquiète comme j'y pense, j'en fais surtout pas pour moi et pour le reste de mon séjour en France. Quitte à dormir mal sur des problèmes de neutu, quitte à souffrir de crise d'angoisse et pas de crise de palu. Pour l'instant, je fais avec ce que je possède. Je me contente de ce que je peux et l'écriture ça m'aide.
Réveiller l'envie de révolte chez certains païens en périphérie.
Viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Viens, on ferme des gueules, viens, on le fait exprès. Vas-y, viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Faut que ça passe en radio, faut surtout pas que ça aille vrai. Vas-y, viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Viens, on ferme des gueules, viens, on le fait exprès. Vas-y, viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Faut que ça passe en radio, faut surtout pas que ça aille vrai.
Parce que l'aigreur, le massacre de l'intérieur, me donne le sentiment d'être inférieur. La rancœur emplit mon cœur, pourrit mon langage, m'étrangle mes cœurs, égorge mon visage. J'ai le mental à l'image des cloîtres où l'on cloître la masse, la crainte de croupir dans mon angoisse. Il me faut croire ou crever pour mes idéaux, car le vice veille et ne déverse que le chaos. Mais j'ai le rap comme tremplin pour expier le trop-plein, bâtir un butin, buter les putains. La colère m'est complice, et c'est au sein de ces entrailles que mes batailles s'accomplissent. Donc à juste titre, j'ai de l'encre par litre, de la chienlit bien chialé dans mes chapitres. 105 battements par minute, tâte le beat, laisse du neuf, écho et cassé, cohabite.
Viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Viens, on ferme des gueules, viens, on le fait exprès. Vas-y, viens, on trouve un frein, viens, on le fait vite fait. Faut que ça passe en radio, faut surtout pas que ça aille frais.
Écoute bien, visiteur.
Écoute attentivement ce que je vais te dire.
Vous écoutez Principe Actif, le mix des cultures.
Je sais que tu m'entends à présent, alors écoute-moi.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9, et partout ailleurs sur principeactif.net.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.